réplique Némésis de Philippe Roth avec Mathilde Brézet. Depuis l'apparition et la propagation planétaire du coronavirus, nous sommes invités par les meilleurs esprits à lire ou à relire les grands textes épidémiques de la littérature mondiale. Le Décaméron de Boccace, le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, la peste de Camus, le hussard sur le toit de Giono, ou encore l'amour au temps du choléra de Garcia Marquez. Autant de chefs-d'œuvre à n'en pas douter. Mais un livre manque à l'appel. Un livre est étrangement absent de cette liste prestigieuse. Némésis, le dernier roman de Philippe Roth, paru en 2012 et qui relate une épidémie de polio à Newark en 1944. Ce livre est palpitant et il donne infiniment à penser. Pour la reprise de réplique, dans les conditions acrobatiques de l'entretien confiné, j'ai voulu réparer l'oubli de Némésis. Et j'ai invité, non pas un critique littéraire patenté, mais une jeune professeure de lettres dans un lycée de l'Oise, Mathilde Brézet, qui a écrit un article remarquable sur Philippe Roth au lendemain de sa mort dans la Revue des Demandes. Et comme, en tant qu'enseignante, vous savez ce que présenter une œuvre veut dire, Mathilde Brézet, je vous demanderai pour commencer de nous faire pénétrer dans l'univers banal et tragique de Bucky Cantor. Mathilde Brézet.
Alors, l'univers de Bucky Cantor, il prend racine, vous le disiez, dans l'histoire d'un été à Newark. Un été en 1944 où une épidémie de poliomyélite s'abat sur la ville, décime les enfants, et c'est important, à une époque où on n'a pas la moindre idée de comment se transmet la maladie. Et cette ignorance sera un des grands ressorts du drame justement de Bucky Cantor. Sur fond d'épidémie, donc, un grand vacarme s'empare de la ville. Le maire lance une campagne contre les mouches, parce qu'on pense que ça se transmet par les mouches, puis contre les chats de gouttière. Le directeur de la santé rassure la population et annonce qu'il ne s'agit en aucun cas d'une épidémie. Les journaux pourtant tiennent le compte des morts, et les parents effrayés envoient leurs enfants vite ailleurs, à la campagne, en camp de vacances, quand ils en ont les moyens. Pour les autres enfants, pour ceux qui restent, c'est Javel et Savon de Marseille. Ils passent leur été dans cette ville en proie à l'épidémie et pour se distraire, ils se retrouvent sur les terrains de jeu qui sont à leur disposition et où est attaché à chaque fois un instructeur, une sorte de super prof de sport qui les fait jouer au baseball, au basket, à la corde à sauter. Et à ce moment-là, Philippe Roth quitte justement le point de vue collectif sur l'épidémie, le spectacle de la ville, pour s'attacher au destin d'un de ses instructeurs, Bucky Cantor, un personnage à tous égards hors normes, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Bucky Cantor, donc, c'est un orphelin qui a été élevé par son grand-père dans un très fort sens des responsabilités, qui est petit, très petit même, myope, mais qui est devenu à force de travail un athlète extraordinaire. Il s'occupe donc de tous ses enfants et on va suivre son itinéraire intérieur à mesure que la maladie, la mort, frappe les familles. Et on le voit, face aux morts, face aux enterrements, face à la douleur des parents et aux questions des enfants, on le voit rester, c'est très étonnant, droit, fort, calme, rassurant. Alors que lui-même, et ça c'est le grand sujet de Némésis, est la proie d'une révolte intérieure qui l'agite comme une tempête. Et puis tout à coup, face aux supplications de sa fiancée, car il a une fiancée, il décide de quitter Newark et son terrain de jeu. Il accepte de la rejoindre hors de la ville à la campagne, justement, dans un camp de vacances où il faut un instructeur. Et là, on entre dans la deuxième partie du livre. Indian Hill, la colline aux Indiens. Bucky Cantor arrive dans ce camp. Et ça pourrait être le paradis. Il retrouve Marcia, il retrouve le grand air, un immense lac où il peut plonger, apprendre aux enfants à plonger, des enfants justement avides de recevoir son enseignement. Mais ce paradis n'en est pas un parce qu'il est rongé par la culpabilité, par toutes sortes de culpabilités. Très curieuse, il s'en veut d'avoir quitté Newark et le terrain de jeu, il s'en veut d'avoir laissé sa grand-mère, il s'en veut même d'être dans cette colline, dans ce camp de vacances, alors que certains de ses amis se battent au front en Europe ou dans le Pacifique, puisque je rappelle qu'on est en 1944. Et il se traite de déserteur. Sur ces réflexions, tout à coup, un des jeunes dont il s'occupe, à qui il donne des cours particuliers, déclare subitement la polio. Le mal est entré dans ce camp de vacances merveilleux. Ça va être la fin de ce chapitre. Le jeune garçon est exfiltré et la polio va se propager dans le camp. Mais avant, Bucky Cantor a le temps de se précipiter vers le médecin et de lui demander, pour soulager sa culpabilité et prouver, il l'espère, son innocence, il va lui demander d'être testé pour savoir si lui aussi est porteur. C'est sur cette demande que se clôt la deuxième partie du livre. La troisième partie, qui s'intitule Réunion, elle se situe dans un temps largement postérieur. Tout à coup, on voit apparaître le narrateur, qui jusque-là était invisible. Il s'appelle Arnie Mesnikov. C'était en fait un des enfants du terrain de jeu de Newark. Monsieur Cantor était son professeur, il avait énormément d'admiration pour lui. Et il l'a retrouvé un jour, par hasard, 20 ans ou 30 ans plus tard, fondu, lamentable, handicapé même, car Bucky Cantor a bien eu la polio, au moment où il s'est fait tester, et ça lui a fait perdre sa belle prestance d'athlète. Et retrouvant son ancien instructeur, il le fait parler de sa vie, et nous découvrons en fait ce qu'a été la vie de Bucky Cantor depuis 20 ans, et surtout à quel point il s'est gâché sa vie en fait, puisque cette culpabilité dévorante qui nous était décrite, nous découvrons qu'elle l'a empêché de faire tout un tas de choix, comme par exemple d'épouser sa fiancée, Marcia, et d'accomplir ce métier d'instructeur de sport qui lui tenait tellement à cœur. Et donc sa dernière partie, Réunion, et je vais m'arrêter là, est une sorte en fait de dialogue philosophique qui ressasse la question du sens de cette épidémie, du sens de la mort, du sens de la responsabilité, de la question de Dieu aussi. Et dans lesquelles Arnie Mesnikov est donc un Bucky Cantor se renvoie la balle pour essayer de comprendre et d'interpréter ces événements qu'il faut interpréter, ou peut-être, c'est ce que semble dire Arnie Mesnikov, qu'il ne faut peut-être pas interpréter. Voilà quelques-unes des grandes questions que pose, il me semble, Némésis.
Merci beaucoup pour ce résumé, Mathilde Brézet. Mais alors, maintenant, nous pouvons entrer dans le détail. Donc, Bucky Cantor, vous le dites, a été élevé par son grand-père, sa mère est morte en couche, et son père est un escroc qui a disparu de sa vie. Son grand-père était un homme inébranlable, rigoureux, qui lui a transmis le sens du devoir. Et ça, je trouve, c'est une chose à remarquer. Parce qu'on dit souvent de Philip Roth, et à juste titre, qu'il est le romancier du désir, de la libido, de l'exubérance. Mais c'est aussi un explorateur génial du surmoi, de la droiture, du sens du devoir, justement. Je disais tout à l'heure que ce livre a été négligé pendant la période que nous vivons. Il y a quand même une belle exception que je voudrais souligner tout de suite. C'est l'article que Virginie Bloch-Lenné a publié sur le site AOC. Un article magnifique. Et dans lequel elle dit que Bucky Cantor est un mensch. C'est terme allemand, terme yiddish. C'est-à-dire un type bien qui a le sens des responsabilités, qui sait aussi ce qu'il doit au sien, à sa lignée. D'ailleurs, on l'appelle Monsieur Cantor. Il est connu autant par son nom de famille que par son prénom. Et Philippe Roth est le grand romancier des histoires de père et de fils. Là, il s'agit d'un grand-père, mais les pères, père ou grand-père, ce sont toujours des hommes durs à la tâche. Hein. Qu'ils soient épiciers, comme dans ce cas, ou horlogers, ou bouchers, comme dans Indignation, ou assureurs, comme le père même de Philippe Roth. Ils ont eux-mêmes un sens du devoir très fort, et Philippe Roth lui-même s'inscrit dans cette filiation, puisque son livre de conversation avec un certain nombre de d'auteurs contemporains, Isaac Bashevis-Singer, Primo Levi, Milan Kundera parmi d'autres, il l'a intitulé Shop Talk. Parlons travail, mais Shop Talk, voilà, c'est le magasin. Il est aussi issu de cette tradition. Et son œuvre d'écrivain, c'est en quelque sorte une œuvre d'artisan. Comme s'il était horloger ou gantier, comme Seymour Levoff dans Pastorale américaine. Et je trouve cette dimension de l'œuvre de Philippe Roth souvent négligée, et là évidemment elle est particulièrement importante, elle est névralgique parce que ce Bucky Cantor va être, si l'on peut dire, victime de son sens du devoir. Il le poussera jusqu'au point de se considérer lui-même comme responsable de la maladie. Et si en effet il refuse d'épouser Marcia, c'est qu'il lui dit « Il faut que je te rende ta liberté, tu ne vas pas passer ta vie avec un paralytique. » Alors qu'elle le supplie de rester avec lui. Et elle lui dit « Mais c'est pas ton corps qui est malade, c'est ton esprit. » Et il fait son propre malheur, et le malheur de Marcia, parce que il veut expier la faute qui a été la sienne. Il se dit responsable, il a, croit-il, répandu le virus dans le camp de vacances, et ainsi, comme le dit aussi Virginie Bloch-Néné, passe-t-il à côté de sa vie en la passant à se croire coupable. Est-ce que vous voyez les choses comme cela, Mathilde Brézet?
Oui, tout à fait. Elle est fascinante, la figure du père de Bucky Cantor. Parce qu'en fait, elle se dissout, elle est à la fois trop présente et en même temps, elle n'existe pas. Comme vous l'avez dit, Bucky Cantor, il est orphelin, il est élevé par son grand-père. Et ce qui est intéressant, c'est que Bucky n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, le vrai nom du héros, oui. C'est Eugène, ouais. En fait, Bucky, c'est un surnom que son grand-père lui a donné. Et il n'est pas impossible de voir qu'en lui donnant ce surnom, c'est une sorte de malédiction qui s'est abattue sur lui, puisque le narrateur nous le raconte. Cet enfant, donc, est élevé par son grand-père dans le sens du devoir, de la responsabilité, et surtout dans le sens de l'effort. C'est très important. Le grand-père, ce qu'il transmet à son petit-fils, c'est l'idée que, avec oui, du sérieux et de l'application, on arrive à tout. Et donc, un jour qu'il est dans l'épicerie de son grand-père, puisque, encore une fois, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, on a ici un héros, un père de héros qui est épicier. L'enfant va tuer un énorme rat. Il a 8 ou 10 ans, je crois. Et pour le féliciter de son courage et de sa bravoure, son grand-père va l'appeler Bucky, en référence, il me semble, à un héros de Marvel, un super-héros. Et en fait, toute sa vie, le héros va s'efforcer d'être à la hauteur de ce surnom. Il va s'efforcer d'être un super-héros, toujours sérieux, toujours droit, toujours appliqué, et voir sa responsabilité partout. Et quelque part, c'est ce qui va le perdre et le plonger dans le tourbillon de la culpabilité, parce qu'en fait, cette philosophie, elle ne marche pas. C'est un des grands enseignements du livre, en tout cas un des grands enseignements de la destinée du héros. Au fond, c'est que croire que par le sérieux et l'application au travail, on arrive à tout, c'est faux. Le héros le dit, le narrateur le dit presque tel quel. Dans la deuxième partie du livre, je cite, Pour quelqu'un qui avait jusqu'alors trouvé dans le sérieux et l'application au travail la solution à tous ses problèmes, bien difficile de s'expliquer pourquoi ce qui arrive arrive comme ça et pas autrement. Au fond, ce que va faire émerger l'idée d'épidémie, et cette épidémie qui est un phénomène incompréhensible, absolument, une malchance entre toutes, c'est que le sérieux et l'application au travail, ça ne suffit pas à expliquer tous les aspects d'une vie. Et finalement, cette très saine éducation que le grand-père a donnée à son petit-fils tourne mal, ou tourne en tout cas au malheur de celui qu'il a trop bien reçu.
Oui, et un malheur dont on aperçoit le caractère déchirant, tragique, dans la dernière partie du livre, et dans cette confrontation, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, Mathilde Brézet, entre Arnie Mesnikov, et qui était jusqu'à présent le narrateur quasi invisible du roman, et Bucky Cantor. Nous sommes en 1971, Bucky Cantor a beaucoup changé, il s'est empâté, mais Arnie Mesnikov le reconnaît, il le voit, il le hèle, et il lui dit « J'ai été un des enfants qui jouait dans le terrain de gymnastique de Chancellor Avenue. » Bucky Cantor le reconnaît, il est très ému, et en effet, la dernière partie est le récit de leurs différents dialogues. Et ça, c'est un côté Henry James. Parce qu'Arnie Mesnikov, vous l'avez dit, a lui-même contacté la polio. Et il a des restes. Il est devenu, il doit porter des appareils orthopédiques. Il n'est pas tout à fait invalide, mais il a des séquelles graves. Et en même temps, il s'en est sorti. Donc, Bucky Cantor voit à travers lui l'histoire qui aurait pu être la sienne et le gâchis qu'a été sa vie, puisque Arnie Mesnikov a lancé une entreprise avec un ingénieur mécanicien qui, comme lui, avait eu la polio dans son enfance. Ils ont ouvert un cabinet de conseil en gestion spécialisé dans les modifications nécessaires pour rendre les bâtiments plus accessibles aux fauteuils roulants. Alors que Bucky Cantor a passé un concours de la fonction publique, il a trouvé un travail de bureau dans lequel il s'ennuie à mourir. Mais pire encore, Arnie Mesnikov a rencontré une femme et il a eu des enfants et il est très heureux avec elle. Donc, il lui fait comprendre que la vie est possible, mais que peut-être, en effet, ce sens de la responsabilité, cet esprit de sacrifice, il l'a poussé trop loin. Car c'est vrai, Bucky Cantor n'a cessé de dire à Marcia, « Je veux te rendre ta liberté. C'est sans moi, hors de moi, que tu seras heureuse. Tu ne vas pas. » Il lui montre ses membres inertes. Il lui dit, je ne veux pas de la pitié dangereuse, si j'ose dire. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. » Donc, il pousse le devoir jusqu'à un certain héroïsme, et cet héroïsme fait le malheur de tous. Et peut-être cela tient-il justement à deux philosophies très différentes sur lesquelles on va pouvoir s'interroger tout de suite, Mathilde Brézet, parce que voici ce qu'écrit ou ce que dit Arnie Mesnikov. « Parfois on a de la chance et parfois on n'en a pas. Toute biographie tient du hasard. » Et dès le début de la vie, tout relève du hasard, de la tyrannie, de la contingence. Et précisément, pour Bucky Cantor, la contingence n'existe pas. Tout s'explique, tout a une raison, et chacun doit donc rendre des comptes. Mathilde Brézet.
Et oui, c'est terrible. Et encore une fois, ça tient sans doute à son éducation. Dans l'éducation qu'il a reçue, fondée sur la responsabilité, il n'est pas possible que quelque chose advienne hors du régime de responsabilité presque. Et au fond, ce destin de Arnie Mesnikov, donc, qui a une philosophie tellement différente de notre héros, et qui a réussi à mener une vie tellement différente et tellement réussie par rapport à lui, c'est effectivement un camouflet et la confirmation que Bucky Cantor s'est trompé de bout en bout. Mais il me semble que dans le texte, Philip Roth donne des indices de ce qui a manqué à son héros, de ce qui manque à Bucky Cantor pour comprendre, pour accepter le hasard et la contingence. Parce qu'il y a une seconde figure de père dans le roman qui apparaît brièvement, qui est le père de sa fiancée, Marcia Steinberg. Son père est un médecin, le docteur Steinberg, à qui un jour Bucky Cantor va rendre une visite. Et là, on va entrer dans un monde complètement différent. On va découvrir quelqu'un de cultivé. D'abord, on entre chez lui et il y a des fleurs. Il y a des fleurs dans le jardin. Et puis, il fume du tabac. Il y a un parfum de légèreté, d'insouciance. Un rapport à la vie complètement différent que va découvrir Bucky Cantor. Et d'ailleurs, immédiatement, en présence de ce médecin à qui il vient demander des conseils parce qu'il n'arrive pas à expliquer la maladie aux enfants et surtout, il n'arrive pas en fait à vivre avec l'idée de cette épidémie en lui. Les conseils que va lui donner ce docteur Steinberg sont éminemment porteurs de bonheur. Voilà un père tout à fait compatible avec le projet du bonheur, avec le projet d'une vie réussie et qui dessine, il me semble, une éducation très différente de celle que lui a donnée le grand-père. Et d'ailleurs, il va prononcer des paroles extrêmement réconfortantes à propos de l'épidémie, à propos de la mort, à propos de la maladie, qui vont réconforter d'ailleurs aussi bien le lecteur que le héros, puisque pour nous aussi, c'est un bol d'air d'entrer chez ce docteur Steinberg. Car à force d'être moral, c'est dur de suivre Bucky Cantor dans sa poursuite de la recherche des causes et des responsabilités, il me semble.
Oui, c'est vrai. C'est un moment béni que cet entretien avec le docteur Steinberg. D'ailleurs, à un moment donné, il mange une pêche que lui offre le docteur Steinberg, et c'est un instant quasiment paradisiaque. D'ailleurs, le père de Marcia, ce docteur Steinberg, suppliera aussi Bucky Cantor d'accepter de rencontrer sa fille quand il est à l'hôpital, malade de la polio, et il ne comprendra pas plus que sa fille l'attitude butée de Bucky Cantor, son héroïsme. Mais tout commence aussi pour lui avec le fait qu'il a été réformé. C'est vrai, nous sommes en 1944, et la guerre fait rage, il a voulu s'engager, mais il a la vue basse. Donc déjà, dès le début du livre, il est travaillé par la honte. Il n'est pas là où il devrait être. Quand il va au camp de vacances rejoindre Marcia, il a le sentiment de déserter deux fois. Non seulement il n'est pas sur le champ de bataille, mais il n'est pas non plus à Newark avec les enfants, comme il aurait dû être. Donc il est en effet, tout au long du livre, travaillé par la culpabilité. Mais c'est là peut-être qu'on va pouvoir en venir au sens du titre. Et je voudrais... Parce que Némésis, dans la philosophie ou dans la mythologie grecque, Némésis personnifie la vengeance divine, la puissance chargée d'abattre la toute démesure. Alors on pense souvent à la démesure de l'avidité. Et là, c'est plutôt la démesure de la responsabilité. On pense aussi aujourd'hui, et nous allons venir justement à notre situation, à la démesure de l'exploitation de la terre. Et là, c'est la démesure de l'explication qui est punie par cette némésis. Et je voudrais lire justement un extrait particulièrement important du livre à la fin. Que l'épidémie de polio parmi les enfants du quartier de Wickawick et les enfants du camp d'Indian Hill fut une tragédie, il ne pouvait pas l'accepter. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Il lui faut trouver une nécessité à ce qui se passe. Il y a une épidémie, il y a besoin de lui trouver une raison. Il faut qu'il se demande pourquoi. Que cela soit gratuit, contingent, absurde et tragique ne saurait le satisfaire. Que ce soit un virus qui se propage ne saurait le satisfaire. Il cherche désespérément une cause plus profonde, ce martyr, ce maniaque du pourquoi. et il le trouve, le pourquoi, soit en Dieu, soit en lui-même, ou encore de façon mystique, mystérieuse, dans leur coalition redoutable pour former un destructeur unique. Un maniaque du pourquoi. Voilà ce qu'il est. Et c'est tout à fait extraordinaire que Philippe Roth utilise cette formule. Alors, parce qu'on peut penser, ben voilà, Bucky Cantor est devenu fou à force de culpabilité. Mais cette description finale évoque, pour moi, un grand texte philosophique de Martin Heidegger, le principe de raison. Nous vivons, dit-il, à l'époque moderne, sous la domination du principe de raison. Nihil est sine ratione. Rien n'est sans raison. Et voici ce qu'écrit Heidegger, qui est quand même extraordinaire. Le pourquoi ne laisse aucun repos, n'offre aucun lieu de halte, ne fournit aucun point d'appui. Le mot pourquoi recouvre un courant puissant qui nous engage dans un impitoyable et ainsi de suite. Nous sommes peut-être aussi tous aujourd'hui des maniaques du pourquoi. Et là, je pense à ce qui arrive. Notre épidémie, notre pandémie est différente. Alors, il faut dire que l'épidémie du Newark n'a pas eu lieu. C'est pas tout à fait une uchronie. Il y avait des épidémies, mais jamais d'une telle intensité. Et nous savons aussi qu'en 1954, un vaccin a enfin été trouvé. Et on ne savait pas du tout comment faire pour juguler la polio. On ne savait pas très bien d'où elle venait, etc. Donc tout le monde était un peu perdu. Vous l'avez dit au début. Là, nous avons une pandémie, mais vous voyez bien que on en refuse absolument la contingence. Oui, il ne peut rien avoir de contingent. Tout doit avoir une raison, une cause, et même, on cherche absolument des responsables. On le voit, par exemple, avec ce qu'on pourrait appeler la tentation judiciaire, qui est très forte aujourd'hui. La Cour de justice de la République est saisie d'innombrables plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, et, ou plus précisément, comme le dit un journal de manière gourmande, sa variante trop peu connue du code pénal, qui cible quiconque s'abstient volontairement de prendre les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger ou un risque pour la sécurité des personnes. Voilà. Il faut une cause, il faut une responsabilité. Alors c'est la culpabilité d'une humanité trop avide de maîtrise, et qui paye justement l'exploitation de la nature, et ça peut être aussi des coupables particuliers qui n'ont pas agi comme il fallait au moment où il fallait. J'ai le sentiment que face à cette pandémie, nous sommes en train de venir, en tout cas un certain nombre d'entre nous, sont des, sinon des martyrs, mais du moins des maniaques du pourquoi.
Oui, tout à fait. Cette dénomination de maniaque du pourquoi, elle est très intéressante. Et notamment parce que elle permet de tracer, de faire sentir plutôt la différence qu'il y a entre ce livre dont nous parlons et ce que nous sommes en train de vivre. Parce que ce sont donc deux histoires d'épidémie, mais nous sommes en train de vivre notre épidémie, effectivement, sous un angle éminemment collectif. Et c'est collectivement que nous cherchons des responsables. Ces responsables sont politiques, ils ont des responsabilités sur des institutions et sur des organismes. Au contraire, Bucky Cantor, et c'est là où il ouvre une voie complètement différente et étonnante, et c'est là peut-être où le lecteur d'aujourd'hui qui va ouvrir Némésis ne trouvera pas forcément l'élucidation immédiate de ce que nous sommes en train de vivre. Il verra s'ouvrir un autre chemin. Bucky Cantor, c'est un maniaque du pourquoi intérieur. Il cherche à comprendre, mais jamais, à aucun moment dans le roman, il ne va s'en prendre ni à un médecin, ni au maire, ni au directeur de la santé. Pourtant, on comprend, et c'est ça qui est très amusant aussi, on sent très bien là une très légère satire, une ironie délicieuse justement de Philippe Roth, qui se moque un peu de toutes ces différentes instances et de leur faible savoir, de leur faible utilité au fond en ces temps de désastre. Et donc ce maniaque du pourquoi intérieur, il ouvre à une autre dimension. Il ouvre, il me semble, un chemin qui est différent. Pour expliquer aussi la folie du personnage, on peut revenir sur cette myopie qui, évidemment, est également morale. Je crois que Philippe Roth le dit à la fin de l'œuvre. Bucky Cantor, c'est quelqu'un qui ne parvenait jamais à se placer à la bonne distance des choses. Voilà, c'est valable pour ses yeux et c'est évidemment valable pour sa position dans le monde, dans la société, dans ce terrain de jeu ou ce camp de vacances qu'il anime. Il n'arrive pas à se placer à la bonne distance des choses et il se rend épouvantablement malheureux.
France Culture, réplique Alain Finkielkraut.
Le rapprochement qu'on peut faire avec notre situation, c'est le refus d'accepter la contingence, l'irrationalité, l'absurdité, le caractère tragique d'une situation. Nous convertissons aussi une tragédie en culpabilité. Alors, nous n'avons pas la noblesse de Bucky Cantor, parce que qui se dit, lui, coupable, qui ne cherche pas des boucs émissaires. Reste que cette conversion a lieu. Et cette question de la contingence obsède Philippe Roth. Je citais ce roman merveilleux qui est Pastorale américaine. Eh bien, il y a un épigraphe à Pastorale américaine, cette citation du poète William Carlos Williams, « The rare occurrence of the expected », la rare occurrence de ce à quoi l'on s'attend. Ça n'arrive pas, ce à quoi l'on s'attend. C'est ça. La vérité, c'est l'unexpected. Et c'est exactement la situation de Seymour Lefoff, un homme exemplaire dont la vie a été détruite par sa fille. Sa fille Mary est devenue... Elle bégayait quand elle était enfant et elle est devenue une terroriste. Et Seymour Lefoff a été détruit parce qu'il cherchait les causes et il se voulait responsable. Pourquoi est-ce arrivé? Sans doute par ma faute. Mais qu'ai-je fait pour que ma fille agisse ainsi? Parce que cette déviation dans l'histoire des Lefoff est complètement inattendue et elle ne peut rien avoir de contingent. Et moi, ce qui me fait peur, justement, c'est le refus complet de laisser sa place à la contingence. C'est en cela, malgré tout, que ce livre de Philippe Roth peut être riche d'enseignements pour nous, même si la situation morale est en effet très différente. Et je voudrais maintenant aborder justement une autre dimension de la révolte de Bucky Cantor, sa déclaration d'hostilité à Dieu. Pour savoir ce que vous en pensez, Mathilde Brézé, parce que il est coupable, dit-il, mais il pense aussi que Dieu est coupable. Et il y a un moment donné, un des premiers morts, c'est un de ses élèves préférés, Alan Michaels, 12 ans, qui succombe en quelques jours à l'opaliomélite. Donc, il va présenter ses condoléances aux parents et il assiste aux funérailles. Et Philippe Roth dit, l'assemblée se joignit au rabbin pour réciter la prière de deuil, louant la toute-puissance de Dieu, louant sans borne ni raison, ce Dieu même qui permettait à la mort d'anéantir toute chose, y compris les enfants.
Oui, il est très très fort ce passage, oui. Et toute la question de Dieu, qui est un leitmotiv dans l'œuvre, est extrêmement intrigante, parce qu'effectivement, cette épidémie, chez ce fou qui cherche des causes et des raisons à tout, cette épidémie va le mettre sur la voie d'un questionnement éternel, incessant, qui n'évolue pas d'ailleurs, et qui va le mettre sur la voie de la révolte contre Dieu. Chacun des événements presque qui lui arrive l'amène à se révolter, donc contre Dieu, contre sa puissance. Alors c'est très fort dans le texte parce que il le fait à grand renfort de majuscules quand il parle de sa puissance ou de sa volonté. Donc ces majuscules qu'on a l'habitude de mettre en signe de respect et qui là, on le sent, sont complètement investis par Bucky Cantor d'une volonté de révolte et de blasphème. Et cette question de Dieu, elle est très étonnante parce que au fond, il me semble que c'est un des grands sens de Némésis, Bucky Cantor fait le procès de Dieu au regard du mal. C'est-à-dire que ce livre, c'est une sorte de théodicée où il repose l'éternelle question, la question de la philosophie classique. Comment est-ce qu'il est possible que Dieu existe si le mal existe? Qu'on peut poser dans l'autre sens. Pourquoi le mal est possible si Dieu existe? Et cette épidémie, qui est le mal absolu, en plus qui frappe à l'aveugle, donc qui est la forme de malchance absolue, va donc le mener dans une révolte qui ne tarit pas, une espèce de colère de héros grec qui ne se relâche jamais, et qui fait de Bucky Cantor l'inverse, moi j'ai trouvé, du personnage de Job, le Job de la Bible qui va constamment bénir Dieu, pareil, de manière répétitive comme un leitmotiv, qui bénira toujours Dieu dans le malheur. Et ben là, Bucky Cantor, dans Némésis, c'est l'inverse, c'est un anti-Job. Il va, page après page, maudire Dieu à chaque nouveau malheur.
Oui, absolument. Et alors, c'est un anti-Job. Et il dit, il n'avait pas osé s'en prendre lui-même à Dieu pour avoir emporté son grand-père quand le vieil homme avait atteint un âge convenable pour mourir, mais pour avoir fait mourir Alan de la polio à l'âge de 12 ans, pour accepter l'existence même de la polio, là il ne comprend pas. Et il nous rappelle que la prière des morts, des juifs, c'est le Kaddish, mais c'est pas vraiment une prière des morts. C'est un éloge de Dieu, de sa bonté, de sa gloire et de sa puissance, que le nom du Très-Haut soit béni dans les siècles des siècles, béni, loué, glorifié, exalté, magnifié, tout-puissant, célébré et loué soit le nom du Seigneur, il est béni. Et je ne trahirai pas un secret en disant que Philip Roth lui-même a refusé pour ses propres funérailles que soit prononcé le Kaddish. Il est enterré à Bard College, comme Anna Arendt, et d'ailleurs il m'avait dit, au moment où il avait pris ses dispositions, qu'il serait enterré là-bas, mais comme Anna Arendt, mais pour sa part, dans le département non-fumeur. Et donc, il est, et les organisateurs de la cérémonie ont voulu passer outre la volonté de Philip Roth, et ce sont ses amis qui ont tenu bon pour que justement, en reprenant une formule Kundera, je dirais, pour ne pas que son testament soit trahi. Et donc ce Kaddish n'a pas été prononcé. Et c'est intéressant parce que je ne dirais pas qu'il ne serait sans doute pas allé aussi loin que Bucky Cantor dans cette révolte contre le mal, etc. Il n'empêche que chez Bucky Cantor, sa colère peut avoir, peut sembler un peu enfantine, mais en même temps, je crois qu'elle est éminemment moderne. Jusqu'à l'âge moderne, la seule explication dont on disposait pour les pandémies, consistait à les rapporter à un châtiment divin de l'humanité pécheresse. C'était la signification d'ordre supérieur qu'on donnait à un phénomène apparemment inexplicable, un châtiment divin. Or, à partir de l'âge moderne, cette explication devient intolérable. Et la rage de Bucky Cantor, son indignation, m'ont fait penser à un texte peu connu qui est Le laboureur de Bohème, du début du XVe siècle. Johannes von Sars. Deux personnages s'affrontent. Un laboureur qui vient de perdre sa femme. Et la mort. Et le laboureur insulte la mort. Il lui dit, ruine acharnée de toutes gens, abominable proscripteur de tous les êtres, épouvantable assassin de tous les hommes, ô mort, soyez honni. La mort développe toutes sortes d'arguments pour justifier sa mission. Aucun ne convainc le laboureur, Dieu intervient dans le différent, il dit vous avez tous deux bien débattu, l'un ce que la souffrance contraint à se plaindre, l'autre que les attaques du plaignant forcent à dire la vérité, en vertu de quoi honneur au plaignant et victoire à la mort. Mais Ernst Cassirer, le philosophe, dans un commentaire, a dit que cette victoire de la mort est en même temps sa défaite, parce que si sa force physique est renforcée, sa force spirituelle est brisée. Et nous sommes, ce laboureur est le grand ancêtre des modernes, nous sommes les héritiers de son deuil impossible. Le malheur, avec lui, est frappé d'illégitimité. La souffrance n'est plus une expiation, mais un scandale. Et si c'est un scandale, alors il s'agit d'y mettre fin, en appropriant la création à l'humanité, en se rendant comme maître et possesseur de la nature. Donc c'est en cela, me semble-t-il, que la révolte de Pukki-Cantor a quelque chose de moderne. On ne peut pas se résigner. On ne peut pas se résigner. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose, et en 1954, quelque chose sera fait, un vaccin sera trouvé.
C'est vrai que cette révolte de Pukki-Cantor, vous disiez que elle a l'air enfantine ou immature à certains moments du livre, il faut le dire, mais en même temps, elle a le mérite de faire émerger ce que, effectivement, pour nous modernes, il y a d'inacceptable, d'incompréhensible dans la mort. Et aussi dans cette prière du Kaddish, dans le fait de glorifier Dieu, de dire gloire à Dieu, de le célébrer au moment même de la douleur, au moment de la mort. Et pour comprendre cette prière, ou pour l'accepter, effectivement, ça demande une méditation très intense, sans doute, dont n'est pas capable Pukki-Cantor, sur le sens de ces paroles de louange à l'heure du malheur. Il y a un des personnages dans le livre qui est sur la voie, qui nous met sur la voie du sens de cette prière. C'est justement l'oncle du défunt, l'oncle du petit garçon de 12 ans qui est mort, Alan Michaels, qui lui est tenancier de drugstore et qui va prononcer un éloge funèbre absolument magnifique. D'ailleurs, le narrateur le reconnaît et vraiment ce passage dans le texte est conçu pour nous émouvoir. Et ce qu'il y a très beau dans cet éloge funèbre de l'oncle, c'est qu'il se tient juste à l'orée de la prière. Dans un geste qui est encore non religieux, il va célébrer la vie de cet enfant sans ignorer la douleur, sans faire mentir les sentiments de l'assistance qui est là, des parents qui ont perdu un enfant, des autres enfants qui ont perdu un ami. Et pourtant, cet éloge funèbre se développe, se déroule et semble s'arrêter justement au point impossible presque à l'esprit humain où commence la prière des morts, cette prière qui commence par l'incompréhensible phrase « Gloire à Dieu, que son nom soit magnifié ».
Il y a aussi le père d'Alan Michaels, ce jeune enfant donc tué par la polio, qui demande à un moment « Pourquoi la tragédie ?» frappe toujours les gens qui le méritent le moins. Et cette phrase m'évoque une autre phrase dans Pastorale américaine, où justement il s'agit toujours de Seymour Levoff, et il est dit ceci. Tout d'un coup, plus rien ne sourit à personne, et alors qui peut s'adapter ? Voilà quelqu'un qui n'est pas fait pour que la vie batte de l'aile. Ne parlons pas de l'invraisemblable. D'ailleurs, qui est fait pour l'invraisemblable ? Personne. On est fait pour la tragédie et la souffrance absurde. Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde ? Personne. La tragédie de l'homme qui n'était pas fait pour la tragédie, c'est la tragédie de tout homme. Et cette phrase pourrait en effet servir de légende, en quelque sorte, aussi à Némésis. Ils ne sont pas faits pour la tragédie, et la tragédie les frappe. Et une tragédie particulièrement terrible, parce que c'est la poliomyélite s'abat au hasard, mais pas tout à fait au hasard non plus. Elle touche majoritairement les enfants, c'est-à-dire les plus innocents des innocents. Et là, évidemment, je pense à Camus. Pour Camus, la peste, c'était l'allégorie de la résistance. Là, l'épidémie de polio évoque quand même aussi, pas la résistance, mais évoque un peu l'Holocauste. C'est-à-dire la violence pure qui s'abat sur les victimes les plus exposées, les plus fragiles. Donc, il y a aussi de cela dans le roman de Philippe Roth, Mathilde de Brézay.
Oui, et il me semble qu'il y a un passage où cette question de l'Holocauste, on l'entend très nettement en sous-texte. C'est un des moments où Bucky Cantor donc se dispute avec sa petite amie Marcia, et alors qu'il vient de se retrouver, que tout va bien, il lui pose cette question insistante. Comment peut-on prier un Dieu qui a créé la poliomyélite? Et on entend très fort donc cette indignation devant l'existence du mal qui amène et qui a pu amener dans l'histoire un peuple ou des individus donc à douter de l'existence de Dieu ou à refuser l'existence de Dieu et à briser net avec toute forme de religion. Mais justement, la différence, et ça c'est une des choses qui me paraît très intéressante dans Némésis, c'est la réponse que donne Bucky Cantor à ce procès de la coexistence de Dieu et du mal. C'est que, contrairement aux réponses qu'apporte généralement la philosophie classique, qui vise soit donc à... qui s'accorde soit donc à dire que Dieu n'existe pas, ou alors à justifier l'existence du mal par telle ou telle raison, par la liberté qu'il permet aux hommes, ou alors par le fait que c'est un mal, mais c'est seulement un moindre mal, Bucky Cantor, il prend une voie radicale, et c'est dans cette voie très étonnante qu'on le retrouve à la fin du roman. Pour lui, c'est l'existence même du mal qui le rend certain de l'existence de Dieu. Et son Dieu est un Dieu extrêmement curieux. Son Dieu, c'est le mal. Le narrateur dit, pour lui, Dieu était un pervers timbré et un mauvais génie. Et cette définition de Dieu, elle est très forte, elle est très étonnante dans cette dernière partie qui vraiment ressemble à un dialogue philosophique où justement s'opposent les interprétations.
Oui.
Et le narrateur, qui lui est un athée, Arnie Mesnikov, en tout cas qui se revendique athée, discute pied à pied avec Bucky Cantor pour essayer de lui faire perdre cette opinion folle et déraisonnable.
Oui, une opinion folle et déraisonnable qui, justement, le conduit à mettre la responsabilité sur Dieu le terrible ou sur Bucky Cantor le terrible. Il y a comme deux coupables qui cohabitent dans la tête de Bucky Cantor. C'est effectivement Dieu et lui-même. Ce qui paraît, en effet, scandaleusement absurde à Arnie Mesnikov, qui voudrait extirper cette idée de la tête de Bucky Cantor pour que celui-ci se réconcilie avec lui-même et se réconcilie avec la vie. Mais de toute façon, il est trop tard. Il est absolument trop tard. Bucky Cantor est devenu ce qu'il est et rien ne changera jamais. Il n'a pas connu une seule aventure amoureuse après sa rupture avec Marcia. Il n'a consenti à montrer son corps invalide qu'à sa grand-mère, qu'il a soigné jusqu'à la mort. Et depuis, il est seul. Il ne veut même pas regarder les matchs à la télévision, parce que ça lui fait trop de peine. Il fait quelques promenades, et sa seule distraction, c'est de déjeuner une fois par semaine avec Arnie Mesnikov. Donc, sa vie est totalement gâchée, et il termine dans une solitude infinie.
Et oui, et moi je trouve ça très intéressant, cette vie gâchée qu'on découvre à la fin du roman, parce que j'y vois peut-être un des sens du titre, qui est quand même, en tout cas, que je trouve assez mystérieux. Némésis. Ça évoque l'idée de vengeance, mais ça évoque aussi, en fait, Némésis, l'idée de la distribution, puisque ça vient du verbe grec némein, distribuer, partager, et surtout rendre à chacun son dû. Et moi, j'ai eu l'impression, en lisant cette fin de roman, que Ces personnages qui incarnent chacun très fortement des visions du monde, des positions face à la vie, à Dieu, au hasard, à la contingence, reçoivent, dans cette dernière partie, chacun ce qui leur est dû. Voilà, Bucky Cantor reçoit le malheur en partage. Arnie Mesnikoff, qui s'en est mieux tiré, peut faire état justement d'une vie meilleure, en tout cas plus plaisante. Et quelque part, dans ce dernier temps du roman, il y a une sorte de sanction qui vient trancher toutes les questions philosophiques. Finalement, la vie a rendu à chacun ce qui lui était dû et a montré ceux qui se trompaient et ceux qui se trompaient moins, si on peut dire.
C'est une conclusion peut-être un peu sévère, Mathilde Brezet, pour le pauvre Bucky Cantor. Je ne suis pas sûr que sa vie tragique lui était due. Et en tout cas, il y a eu la némésis. C'est cette puissance vengeresse qui a puni la démesure de la responsabilité, la démesure de l'explication. Merci beaucoup, Mathilde Brezet, pour ce passionnant dialogue. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard, Inès De Bruyne, Thomas Robin et Gilles Blanchard. Merci à Jean-Marc Claus pour la coordination. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.